Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Dans Lectures en liberté, nous reprenons la suite du roman de Franck Buis, Grossir le ciel. En sortant de l'épicerie, Gus se rendit au bistrot de Perrault. Perrault était un gros bonhomme qui avait l'air de toujours faire la gueule. On aurait dit qu'il respirait un coup sur deux. Mais ça ne devait être qu'une impression étant donné la quantité d'air nécessaire pour remplir son imposant poitrail. À bien y réfléchir, Perrault et son bistrot représentaient la troisième institution du village. Il avait racheté le café en 1982. Ses parents avaient une ferme à Grisac. Perrault n'avait jamais pu se faire à la vie de paysan, et comme ils étaient quatre frères, sa décision avait arrangé tout le monde. Malgré son air bourru, il préférait le contact des gens à celui des bêtes. Et puis surtout, il aimait bien boire un coup. Et forcément, ici, les prétextes ne manquaient pas. Le petit blanc du matin, c'était son péché mignon. L'après-midi, il lui fallait du plus sérieux. Il montait en puissance, surtout quand la nuit tombait, l'heure où l'eau se troublait. Il se considérait avant tout comme un homme libre à qui personne n'avait à dicter sa conduite, et certainement pas dans son bar. Il avait accueilli la loi anti-tabac par cette tirable mémorable « Moi, je suis pas du genre à me laisser marcher sur les pieds, c'est pas parce qu'il y a des connards à Paris qui ont voté une loi pour qu'on fume pas dans les bistrots que je vais obéir. Ici, c'est chez moi, et ceux qui sont pas contents, ils n'ont qu'à pas pousser la porte. J'oblige personne. » Et en effet, personne n'avait fait la moindre réflexion, pas même les flics. Depuis le jour où Gus avait posé les pieds dans le café, aucun des deux hommes n'avait voulu dire bonjour le premier. À croire que ça les aurait dépossédés de quelque chose d'aussi primordial que leur âme. La distance du premier contact avait fini par opérer une sorte de rapprochement diffus, ce que même un étranger aurait pu déceler. Ce mardi-là, les trois types qui discutaient avec Perrault au comptoir ne tournèrent pas la tête à l'arrivée de Gus. Ils avaient l'air de refaire le monde. Enfin, ils devaient plutôt s'en arranger vu que le monde ne poussait pas souvent la porte du bistrot. Gus s'assit à sa place habituelle. Il n'y avait certes jamais beaucoup de clients dans le rade de Perrault, mais on aurait dit qu'il faisait en sorte que la place de Gus soit libre chaque mardi, sûrement pour qu'il ne fasse pas fuir les clients, ainsi remisé dans la pénombre tout au fond du bar, ramassé au-dessus de son verre, concentré sur un futur alcoolisé. Sans dire un mot, Perrault s'approcha de son client pour lui servir un verre de vin rouge. Gus le descendit aussitôt d'un trait, et Perrault lui en remit un autre dans la foulée, retourné s'amarrer à son comptoir tavelé d'auréoles ressemblant à des traces de sabots laissées par un cheval qui aurait piétiné pendant des heures sur quelques centimètres carrés. Le journal du soir traînait sur la table d'à côté. En première page, Gus reconnut un des types qu'il avait vu la veille à la télévision. Un de ceux à qui on promettait d'être président de la République si on s'en tenait au sondage. Son nom sonnait un peu comme celui du maire. Gus tendit la main pour attraper le journal et voir ce qu'on racontait de plus à l'intérieur. En deuxième page, il y avait un article. Le dernier adieu fait à l'abbé Pierre. Il ne voulut pas le lire. Ensuite, il jeta un œil aux avis de décès. Le vieil Anselme de Lermet avait cassé sa pipe. Sur la page d'en face, un entrefilet racontait qu'il s'était fait encorner par son taureau en plein sur la fémorale, le genre de blessure qui ne pardonne pas plus pour un jeune que pour un vieux. Il s'était déjà vidé de tout son sang quand les premiers secours étaient arrivés sur place et ni les pompiers ni le SAMU n'avaient rien pu faire pour le sauver. Gus pensa qu'à l'âge où Anselme était mort, il aurait certainement déjà vendu ses vaches pour la viande, vu que quand on vieillit, on est moins leste et qu'on a moins de besoins en tout pour continuer sa route. Il n'y avait rien d'autre d'intéressant à se mettre sous la dent, en tout cas rien qui se rapporte au petit monde que connaissait Gus, et il n'avait pas pour habitude de s'encombrer la tête avec des histoires de gens qui ne lui étaient rien. Pour l'abbé, il fallait reconnaître que c'était différent. Gus replia le journal et réclama un verre supplémentaire. Il tendit l'oreille pour écouter discrètement ce qui se disait. Il y avait une belle brochette au comptoir, ferraillant avec de plus en plus de conviction. Malaval, l'ancien charron, Dupérou, le cantonnier à la retraite, et John, un Anglais, qui habitait la commune depuis plus de 20 ans. On ne savait pas de quoi il vivait. Juste qu'il avait dû faire un genre de travail dans le passé qui lui évitait d'avoir à se faire du souci pour le restant de ses jours. Perrault les servait sans s'oublier. Les trois piliers revenaient d'une partie de chasse. Ils portaient tous un gilet orange enfilé par-dessus leur veston et le charron avait gardé sa casquette de même couleur posée en biais sur son crâne dégarni. Ils avaient dû faire une battue au renard, la seule chasse autorisée par tant de neige, l'animal étant considéré comme nuisible. Pour l'heure, les héros étaient en train d'accrocher un tout autre tableau de chasse à leur actif, et ils n'allaient certainement pas rentrer bredouille. Au début, Gus crut qu'il parlait de lui, parce que le groupe faisait des messes basses, et que ça ne leur ressemblait pas de parler tout doucement. Surtout après avoir ouvert les écluses en grand, plutôt du genre à faire profiter l'assistance de leurs histoires, vraies ou fausses. Gus saisit tout de même quelques mots à la volée, sans parvenir à les mettre en ordre. Une chose était sûre, il causait du maire et d'étrangers, qui avaient l'air de faire partie d'une sorte de secte. À les regarder, ça allait certainement les occuper un bout de temps. Du nouveau dans le trou du cul du monde, ce n'était pas tous les jours qu'une bénédiction de cette nature tombait du ciel. Ce fut alors que l'évangéliste se rappela à son bon souvenir, parce que la communauté dont parlait la compagnie était bel et bien celle des suceurs de Bible. Les surprises ne faisaient que commencer. Et comme le sujet n'intéressait pas Gus, il se dit qu'il était temps de mettre les voiles. Un type entra dans le bistrot au moment où Gus s'apprêtait à se lever. Quelqu'un qu'il connaissait bien et depuis longtemps, Jean Paradis, était son plus proche voisin après Abel. C'était plus déjà les Doges, là où habitait Paradis, et pas tout à fait Grisac non plus. Jamais il ne serait venu à l'idée de Gus de lui donner un coup de main, à lui, ni d'en demander un. L'homme avait fait de sacrées bonnes affaires à ce qu'on racontait et pouvait voir, même. Pour réussir de la sorte, il fallait une certaine ambition et être capable de la projeter dans l'avenir sans avoir de scrupules. Gus n'était pas du genre à se soucier de plus que du lendemain, et il n'aurait pas su dire ce qui valait mieux pour un homme. Ce qu'il savait de source sûre, c'était qu'il n'aimait pas le paradis, ni sa voix, ni ses manières, ni rien du tout se rapportant à lui. Paradis était aussi large que haut. Un genre de sanglier, une force de la nature, capable de se payer un gros jeune dire flambant neuf sans réfléchir au prix. Il aimait se rendre dans le bourg sur un cheval tout noir, sûrement pour asseoir un peu plus sa réussite avec cette pose aristocratique qui était loin de rendre justice à l'animal. Son projet était de racheter petit à petit les fermes tout autour de la sienne. Et il le menait obstinément à bien, ce projet-là. Sur les terres nouvellement acquises, il mettait des broutards et des moutons qui ne lui demandaient pas beaucoup de peine. Quant au bâtiment, il payait une famille de Roumains vivant dans une caravane sur une parcelle éloignée de sa ferme pour passer un coup de peinture dessus et les revendait à prix d'or à des Anglais ou des Hollandais. Enfin, à un de ces étrangers qui trouvent qu'on est mieux ici que dans leur propre pays. C'était John qui avait ouvert la voie. Les fermes qu'il n'arrivait pas à vendre, Paradis les louait comme gîte pour un week-end ou plus. Si la richesse signifiait quelque chose au pont de Montvert, c'était à Paradis d'en parler. Pour tout dire, il payait tellement mal ses employés roumains qu'ils avaient été obligés de trouver un moyen de manger à leur faim. Il leur arrivait d'aller dépecer une vache la nuit dans les pâtures de Paradis. Il choisissait une jeune bête et l'assommait d'un coup de massue avant de la découper sur pied, puis abandonnait la carcasse. Après plusieurs forfaits, Paradis les avait surpris alors qu'il patrouillait armé de son fusil de chasse. On racontait qu'il avait tiré dans le tas sans sommation, blessant gravement un des Roumains en plein thorax. Paradis n'avait pas été inquiété par la justice, d'abord parce que les Roumains étaient en situation irrégulière, ensuite parce que personne ne s'était mis en tête de vouloir prouver qu'il travaillait pour lui. Les Roumains, c'était de la graine de racaille sans papier qui n'avait eu que ce qu'il méritait, selon son propre jugement. Lors de cette nuit tragique, juste après avoir blessé le Roumain, Paradis avait prévenu un de ses fils, gendarme. Ce dernier était arrivé avec trois de ses collègues pour constater les dégâts. Par chance, ils avaient même découvert une arme à côté du blessé. Voilà comment le remerciaient ceux à qui il permettait de camper généreusement sur ses terres. Les mauvaises langues racontaient que le fusil trouvé près du voleur amoché était un calibre avec lequel on avait vu plus d'une fois Paradis chasser le gros gibier. Mais personne n'eut envie de creuser ce sillon-là non plus. Paradis n'était pas le genre d'homme qu'on s'aventurait à couper au milieu d'une phrase sans une bonne raison. Gus l'avait quelquefois entendu causer chez Perrault avec sa voix de stentor qui montait au fur et à mesure qu'il en avait un coup supplémentaire dans le nez. Avec tous les autres péquenauds du coin massés autour de lui qui n'en perdaient pas une miette, comme si sa réussite rendait indiscutable les conneries qu'il débitait. Dans ces moments-là, Gus ne savait pas qui il détestait le plus, eux ou lui.
Malgré la bise qui mord, la pauvre vieille de Somme va ramasser du bois mort pour chauffer bonhomme. Bonhomme qui va mourir de mort naturelle. Mélancolique, elle va à travers la forêt blême où jadis elle rêva de celui qu'elle aime, qu'elle aime et qui va mourir de mort naturelle. Rien n'arrêtera le cours de la vieille qui moissonne le bois mort de ses doigts gourds. Ni rien ni personne, car bonhomme va mourir de mort naturelle. Non, rien ne l'arrêtera, ni cette voix de malheur qui dit quand tu rentreras chez toi tout à l'heure. Bonhomme sera déjà mort de mort naturelle. Ni cette autre et sombre voix montant du plus profond d'elle, lui rappelait que parfois il fut infidèle. Car bonhomme, il va mourir de mort naturelle.
Après cette pause musicale, nous revoici donc pour la suite du roman de Franck Bouys, Grossir le ciel.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Jean Paradis s'était présenté plusieurs fois aux élections municipales sans jamais être élu, à cause de ses idées extrémistes. Il n'avait d'ailleurs toujours pas digéré l'échec, si bien que dès qu'il pouvait emmerder Balak et son conseil, il ne s'en privait pas. Il faut croire qu'il ne suffit pas de payer des coups au bistrot pour acheter un électorat, ou que les poivrons ne sont pas si nombreux que ça au village, ou bien encore que la démocratie a des vertus insoupçonnées. Paradis avait une idée bien précise derrière la tête en entrant chez Perrault. Il s'assit en face de Gus, sans y avoir été invité. Ce dernier constata immédiatement qu'il avait pris une sacrée avance côté boisson, vu que son visage était tout rouge, comme prêt à exploser. Paradis le fixait en plissant les yeux, aussi sûr de lui que peut l'être un serpent en face d'une souris. Il dit, sans commencer par un bonjour, « Faut qu'on parle affaire, toi et moi. » Il parlait comme si c'était une évidence, mais Gus ne voyait pas quelles affaires ils pouvaient avoir en commun. Alors il répondit, « Je crois pas que c'est le genre de choses qu'on peut avoir à faire ensemble. » Et moi, je crois que tu te gourres. Si tu veux, je te propose de plus te soucier de te lever le matin pour soigner tes bêtes, ni de trimer comme un forçat dans l'avenir. Qu'est-ce que tu dis de ça? J'en dis que tu dois être sacrément fort pour deviner un futur que je pourrais jamais imaginer. Tu crois pas si bien dire, alors, t'en penses quoi? J'avoue que tu as éveillé ma curiosité. Ah, tu vois que ça vaut la peine qu'on prenne un peu de temps pour discuter avec toi. Si je comprends bien, tu proposes de faire mon travail à ma place. C'est bien ce que j'ai compris.
Bah exactement.
T'es bien aimable, dit calmement Gus. Mais que me vaut cette soudaine bonté?
Bah, t'es un rigolo, toi.
C'est ce que tout le monde s'accorde à dire dans le coin. Voilà. Je te propose une affaire en or, une que tu pourras pas refuser si tu es vraiment aussi malin que je le pense. Je t'offre de te racheter ta ferme et toutes tes terres, de quoi te payer une maison dans le bourg et t'assurer une petite retraite jusqu'à la fin de tes jours si tu sais placer ton argent comme il faut.
J'ai peur de ne pas le placer dans les mêmes endroits que toi.
Je t'aiderai si tu veux, je m'y connais, dit Paradis, en rapprochant son visage de son verre posé sur la table.
Ben, j'en doute pas une seconde.
Alors, c'est une chose qu'on peut envisager entre gens intelligents.
Tu sais quoi, Figus, en prenant son verre à deux mains.
Vas-y, je t'écoute.
Tu m'as jamais adressé la parole jusqu'à aujourd'hui, et je t'assure que je m'en suis jamais plaint. Et voilà que la première fois que tu le fais, c'est pour vouloir me soulager de mon travail en me rachetant ma ferme. Tout ça juste pour mon bien.
Ouais, pour ton bien.
Ça me touche que tu te soucies de moi à ce point. Je suis content de voir que tu considères les choses sur le même angle que moi.
Sûr, mais tu seras d'accord qu'on n'est pas au bon endroit pour parler affaires.
Gus baissa d'un ton en prononçant affaires comme le ferait un conspirateur dans une alcôve.
« Pas de problème, je passe chez toi quand tu veux pour finaliser cette conversation, » dit Paradis, en se mettant au diapason.
« Finaliser, » reprit Gus, pensif.
« Bah, c'est ce qu'on dit dans ce genre de situation. »«
Bah, décidément, tu as le don pour trouver les mots qu'il faut au bon moment où il faut. »«
Alors on fait comme ça. »«
On va faire comme ça. »«
Disons demain au doge. »«
Demain, c'est parfait. »
« Donc à demain, » dit Paradis, en posant ses deux mains bien à plat sur la table, prêt à soulever sa grosse carcasse de la chaise.
« Avant que tu partes,
Faut que je te dise un truc, ajoute Agus, en élevant le ton de sorte que tout le monde puisse entendre.
Je t'écoute.
Tu dois savoir que j'ai un chien.
C'est important, demanda Paradis, surpris de la nouvelle tournure de la conversation.
Bien sûr que c'est important. Il s'appelle Mars.
Et alors ?
Je l'ai appelé comme ça parce que je l'ai trouvé perdu dans le bois tout tremblant un jour de mars. C'était un 4, mais je me souviens plus de l'année.
Oui, c'est sacrément utile un chien par chez nous.
T'imagines pas à quel point.
Je vois toujours pas en quoi ça concerne nos affaires.
Au contraire, tu vas comprendre. Quand tu viendras demain pour discuter à nouveau de nos affaires,
t'appelleras Mars.
Pourquoi je ferais ça ? Dit Paradis, qui commençait à s'agacer.
Parce que c'est lui qui te donnera ma réponse, et moi je serai pas loin pour regarder, tu peux en être sûr.
Tu te fous de moi, là, à ton avis ?
Putain, je te jure que tu me le paieras, dit Paradis en se levant d'un coup et en renversant sa chaise.
J'ai pas les moyens, fit Gus, avec un sourire au coin de la bouche et une victoire au fond de lui, comme il n'aurait jamais imaginé en gagner une, même dans ses rêves.
Autant dire que la conversation s'arrêta net et que les deux hommes n'étaient pas prêts de la reprendre. Paradis quitta le bistrot comme un ouragan sous le regard incrédule de Perrault et de ses acolytes, puis Gus demanda qu'on lui serve un nouveau verre pour fêter ça. Ensuite il sortit, après avoir payé ses consommations et acheté une cartouche de gitane.
En passant devant la mairie pour rejoindre son tracteur, Gus reconnut la voiture du maire et une autre encore plus grosse, garée à côté. La vision buta violemment contre son crâne comme une mouche qui aurait foncé sur une fenêtre sans la voir. Les crampons des pneus correspondaient aux traces qu'il avait relevées sur la route enneigée des Doges. C'était forcément la bagnole qui était venue récupérer l'évangéliste l'autre soir, un de ces énormes 4x4 capables de braver le mauvais temps. Qu'est-ce qu'ils avaient après le maire ?
Peut-être que les suceurs de Bible voulaient l'embringuer dans leur communauté, se dit Gus.
Il s'approcha du bolide et mit ses mains en coupe devant son visage, tout contre une vitre arrière. La glace était teintée, mais il parvint tout de même à voir à l'intérieur et aperçut des piles de prospectus retenues par des élastiques posées sur le siège, avec sur la couverture un Jésus sur la croix qui n'avait pas l'air de souffrir, et ces mots écrits en gros « Ma parole est vérité ».
Gus s'attarda encore un peu, regardant de temps en temps autour de lui au cas où quelqu'un s'apercevrait qu'il faisait l'espion.
L'entrevue s'éternisait dans la mairie. Il semblait qu'ils en avaient des choses à se dire les uns et les autres.
Gus ne voulait pas repartir sans avoir vu tout ce petit monde et surtout vérifier que son visiteur était bien du nombre. S'il continuait à tourner autour de la voiture, son manège allait forcément finir par paraître suspect.
Le temple était juste en face de la mairie. Il suffisait pour s'y rendre de traverser la place qui servait aussi de foiraille deux fois par mois. Gus se dit que c'était le moment d'aller y faire un tour. Que ça ne pouvait certainement pas faire de bien, mais pas de mal non plus. Et puis à cette heure, il ne devait pas y avoir grand monde dans la boutique. Gus effaça la distance qui le séparait du temple et tira un battant de la porte. Il se retrouva dans le silence et la pénombre contrariée par les quelques téméraires photons qui parvenaient à transpercer les vitraux recouverts de saintes attitudes. Rien n'avait changé. Gus laissa la porte pour voir au dehors. Il n'était pas assez sur ses gardes.
« Bonjour, Gus.
Ça me fait rudement plaisir que tu sois ici. »
Gus sursauta et se retourna dans la foulée. Il n'avait pas entendu le pasteur arriver.
à croire que le serviteur de Dieu était apparu comme le Saint-Esprit descendu du ciel, juste pour lui faire remarquer que rien de ce qui se passait n'était en mesure de lui échapper. Si Dieu n'avait visiblement pas bougé, le pasteur, lui, avait pris un sacré coup de vieux. « Bonjour, j'allais sortir, » dit Gus, qui ressemblait à un gamin pris en faute. « Je ne voulais pas te déranger, tu peux rester tout le temps que tu veux. » « J'en ai déjà pris plus que ce que je croyais. Faut que je rentre à la ferme maintenant. Il y a du travail qui m'attend. » « Ça doit être plutôt calme au Doge en ce moment. » « Je suppose que c'est ce qu'on doit se dire quand on n'y vit pas. » « Certainement, mais maintenant que tu es là, ce serait dommage de ne pas lui parler. »« À qui je devrais parler ?»« Au Seigneur, » dit le pasteur en montrant la croix plantée derrière l'autel et le Jésus épinglé dessus qui avait l'air d'en baver, comme si la réponse était évidente. C'était pas vraiment à lui que j'étais venu causer, pour tout dire. Excuse-moi, je ne voulais pas être indiscret. J'imagine que vous faites votre boulot aussi bien qu'un autre. Ce n'est pas vraiment un métier, tu sais. Vous êtes bien payé, à ce que je sache. Bien sûr. Alors c'est un boulot. Et il n'y a pas à revenir là-dessus, dit Gus, avec un brin d'agacement dans la voix. C'est plus que ça, tu sais, un sacerdoce. « Je ne sais pas trop ce que veut dire ce mot, mais à vous entendre, vous le feriez pour rien, ce boulot-là » « Sans la moindre hésitation, » répondit le pasteur d'un ton solennel. « Moi, je dois reconnaître qu'il n'y a pas grand-chose que je ferais pour rien, » dit Gus, « plus par provocation que par conviction. » Tout en discutant, il ne perdait pas la place de vue au cas où quelqu'un sortirait de la mairie. « Tu as l'air bien préoccupé. » reprit le pasteur. Pas plus que d'habitude. Il faut juste plus que je traîne. Mars est enfermé dans la maison et je m'en voudrais qu'il fasse des saletés. Un petit mensonge ne mangeait pas de pain et ce n'était tout de même pas de nature à rapprocher Gus de la damnation éternelle. Ah, dans ce cas, repasse quand tu veux. Je suis pas certain que ce soit demain la veille. Au revoir, Gus. Au revoir. Nous avons terminé pour ce soir et nous nous retrouverons demain vendredi pour la suite du roman de Frank Buis, Grossir le ciel. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.